Radio Prague, les informations.
Les autorités tchèques ont déjà reçu la décision du tribunal de Paris concernant le litige entre l'État tchèque et la société Diak Human. Le groupe français Lagardère vend la société Hachette Filipáky en République tchèque. L'aéroport de Prague a reçu le prix Eagle Award de l'Association du transport aérien international. Le ministère tchèque de la Santé a reçu la décision du tribunal de grande instance de Paris concernant le litige qui oppose l'État tchèque et la société Diak Human. Le document est analysé maintenant par les juristes de l'Office de représentation de l'État dans les affaires de propriété, une déclaration pour l'agence de presse ČTK du porte-parole du ministère de la Santé Vlastimil Sršeň. La société Diak Human affirme que le tribunal de Paris a reconnu comme légalement valide le verdict de la procédure d'arbitrage condamnant la République tchèque à payer à Diak Human un dédommagement de quelque 400 millions d'euros. Cette information a été confirmée par le ministre des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg. Selon les informations non confirmées, les biens tchèques en France, dont le centre tchèque de Paris, seraient maintenant menacés de saisie. Le groupe français Lagardère achève la vente de sa société Hachette Filipáky en République tchèque. Lagardère a décidé de vendre ses sociétés en République tchèque et aussi en Grande-Bretagne au groupe américain Hearst. Certaines parties des biens de Lagardère de moindre importance seront vendues individuellement. En République tchèque, le portefeuille d'activité de la société Hachette Filipáky comprend les magazines Elle, Marianne Maxime Appétit, Marianne Bydlení, Marianne Logement et Elle Décor. L'aéroport de Prague-Ruzyně a reçu ce lundi le prix Eagle Award de l'Association du transport aérien international. Prague a été le seul aéroport à s'être vu attribuer le prix cette année. Il est également le premier aéroport en Europe centrale et de l'Est à le recevoir. Remis chaque année, les prix Eagle Award honorent les fournisseurs de services de navigation aérienne et les aéroports qui se distinguent au chapitre de la satisfaction de la clientèle, de la rentabilité et de l'amélioration continue. L'Opéra d'État de Prague fusionnera sur le plan économique avec le Théâtre National de Prague dès le début de l'année prochaine. Les orchestres et les chœurs des deux établissements seront conservés. Ce sera le début d'une transformation progressive des théâtres lyriques de Prague qui s'étendra sur une période de 2012 à 2015. Telle est la décision du ministre tchèque de la Culture, Jiří Bessel. Un concert de gala est organisé ce lundi à l'Opéra d'État de Prague. C'est par ce concert que les artistes de ces théâtres désirent attirer l'attention du public et des médias sur leurs efforts de conserver l'indépendance de l'opéra d'État. Le ministre tchèque des Finances, Miroslav Kalousek, a signé avec son homologue de Hong Kong, Ase Han, un accord pour éviter la double imposition et la fraude fiscale dans les transactions entre la Tchéquie et Hong Kong. Météo. Ce lundi fait des norbert. Selon le calendrier tchèque, le temps a été d'abord variable pour devenir nuageux à couvert au fil de la journée, qui s'est terminé par des averses et des orages. Les températures ont varié entre 24 et 29 degrés pour les maximales. Mardi, le ciel en Tchéquie sera clair à variable au début et nuageux à couvert avec des averses et des orages en fin de journée. Les températures se situeront toujours entre 24 et 29 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter, qui passe le micro maintenant à Magdalena Hrozinková.
Faits et événements en République tchèque.
Merci à toutes et à tous d'être à l'écoute de Radio Prague. Au sommaire de ce magazine d'actualité, la semaine de soutien aux enfants des parents détenus qui commence ce lundi dans une vingtaine de pays européens, dont la République tchèque. Nous parlerons ensuite du 20e anniversaire de la réouverture d'une ligne de train, reliant tchèque et bavarois. Bonne écoute.
Ahoj, maminko. Moc a moc se mi pelka bestýská. Zítra máme ve škole pesíčku a dostala jsem nové boty. Až za tebou zase přejedu, tak ti je ukážu. Mám tě moc a moc.
Plus de 800 000 enfants à travers l'Europe se trouvent séparés de leurs parents incarcérés. En République tchèque, environ la moitié des 22 000 détenus ont des enfants mineurs qui souffrent parfois inconsciemment de cette séparation. Ce lundi 6 juin a commencé la semaine de soutien aux enfants des parents détenus lancée par le réseau européen Eurochips, dont le siège se trouve à Montrouge, près de Paris. Membre de ce réseau, le comité tchèque d'Helsinki s'engage depuis 4 ans pour le rétablissement des liens familiaux rompus par l'incarcération. Une table ronde, une exposition de photographies et de lettres de parents emprisonnés au siège pragois du comité, la projection d'un documentaire, des débats au cinéma Atlas ouvert au grand public et en particulier aux lycéens. Tout cela est à l'affiche de cette semaine des enfants invisibles, comme a été baptisée cette campagne en République tchèque. En effet, ces enfants sont invisibles aux yeux des autorités tchèques. La preuve en est que leur nombre exact n'est pas connu, comme l'explique Markéta Kovačíková du comité tchèque d'Helsinki. Ces chiffres n'intéressent personne, même si l'État fait des statistiques sur les détenus. Le fait qu'ils soient parents ou pas n'intéresse vraiment personne, sauf si le détenu a une obligation alimentaire envers ses enfants. Nos activités dépendent des financements dont nous disposons et qu'il est très difficile d'obtenir, car ce sujet n'est pas une priorité pour l'État. Par exemple, nous organisons des visites assistées des enfants dans les centres de détention. L'objectif est que ces visites parloirs ressemblent, dans la mesure du possible, à des rencontres familiales, qu'elles ne soient pas traumatisantes pour les enfants, c'est-à-dire qu'il y ait des rafraîchissements, des jouets. Nous faisons aussi appel à un médiateur, souvent c'est un psychologue qui aide par exemple à surmonter les difficultés liées à une longue séparation pour que l'ambiance soit chaleureuse et agréable pour tous. Il s'avère qu'en République tchèque, l'incarcération est presque un sujet tabou. Les enfants, qu'ils vivent dans leur famille d'origine, chez des parents adoptifs ou encore dans des foyers pour enfants, ne sont fréquemment pas confrontés à la réalité, mais vivent dans l'illusion que leur parent absent est malade, qu'il est parti travailler ou vivre ailleurs. Certains parents détenus refusent eux-mêmes tout contact avec leur progéniture, par peur, par timidité ou carrément par sentiment de honte. Un problème auquel l'équipe du comité d'Helsinki réussit à faire face grâce à une coopération étroite avec les foyers pour enfants et les services sociaux qui s'est, paraît-il, beaucoup amélioré ces dernières années. Mais d'autres difficultés persistent, Markéta Kovačíková explique.
Les gardiens dans les services pénitentiaires devraient être spécialement formés pour savoir bien communiquer avec les enfants. Souvent, ils ne savent pas comment réagir et ne respectent pas l'autorité parentale du détenu. Un autre problème est que les détenus sont fréquemment placés dans des prisons, loin de leur domicile. Pour une famille avec enfants, il est compliqué de traverser chaque mois tout le pays, de s'organiser. Il faut prendre congé parce que les visites n'ont pas lieu le week-end. Il faut se déplacer en voiture, car les prisons sont éloignées des villes. Dans certains cas, les visites se déroulent sans contact physique. Souvent, il y a des barrières du côté des parents. Dans le centre pénitentiaire de Svetlana-Tsazavo, un des plus humains et un des plus progressistes en République tchèque, les femmes peuvent mettre leurs propres vêtements pour les visites parloirs, ce qui n'est pas le cas dans les autres prisons. Cela change complètement l'ambiance.
Vous trouverez plus de détails sur les événements de la semaine des enfants invisibles et sur les activités du comité tchèque d'Helsinki au www.helcom.cz. À savoir que le réseau Eurochips a lancé une pétition en faveur des droits des enfants des parents détenus. Il est possible de la signer en ligne au www.eurochips.org. Marquant la frontière entre l'Allemagne et les pays tchèques, la voie ferrée de Železná Ruda a longtemps symbolisé les divisions entre l'Allemagne capitaliste et la Tchécoslovaquie communiste. Après la Seconde Guerre mondiale, cette ligne fut désaffectée et on projeta même de la faire disparaître. En 1991, 2 ans après la révolution de velours, la réouverture du chemin de fer entre les deux villages tchèques et bavarois fut un véritable événement entérinant le rapprochement entre les deux peuples. Ceux-ci ont dignement fêté ce samedi 20 ans d'une étroite collaboration. Pierre Meillant.
Le village bavarois, Markt Eisenstein, et le village tchèque, Železná Ruda, portent tous les deux un nom signifiant « métal de fer » en français. Situé dans l'une des zones les plus escarpées du massif de la Šumava, aussi appelée de la forêt de Bohême, les deux bourgades ont été façonnées par l'industrie minière et par l'industrie de la verrerie. C'est aujourd'hui le tourisme qui fait vivre ce charmant territoire de moyenne montagne. Le train a permis le développement de ces activités en décloisonnant la région, qui s'est d'abord ouverte à Pölzheim, en Bohême de l'Ouest, et à Munich, via la ville de Plattling, en Bavière. La construction de la gare a en effet conduit à une multiplication des échanges entre les deux régions. Entrée en service en 1877, le bâtiment présente la particularité d'être à cheval sur la frontière entre la République tchèque et l'Allemagne. Le maire du village de Železná Ruda, Michal Schneeberger, insiste sur le rôle crucial joué par cette liaison ferroviaire dans le développement de la région.
La construction de cette voie de chemin de fer a constitué une vraie chance pour nos villages et notre territoire. Ce fut un moment clé dans l'histoire. Cela a créé une infrastructure qui a donné l'opportunité à de très nombreux touristes de découvrir la région et qui a bien sûr permis d'interconnecter les pays tchèques et bavarois.
Malheureusement, après la Seconde Guerre mondiale, les activités de la gare sont au point mort. Aussi, le processus de division de l'Europe en deux blocs idéologiques ne va pas arranger les choses. En 1953, les autorités tchécoslovaques décident ainsi d'élever une clôture matérialisant la frontière et séparant la gare en deux entités distinctes. La ligne est coupée et son terminus se trouve désormais à plusieurs kilomètres au nord de la frontière. Le 2 juin 1991, deux ans après la révolution de velours, la gare est finalement rouverte au trafic en présence du chancelier allemand Helmut Kohl et du premier ministre tchécoslovaque Petr Pitart. Et c'est donc ce week-end qu'a eu lieu la plupart des festivités commémorant cet événement majeur, symbole de l'ancrage des pays tchèques en Europe de l'Ouest et de la fin des rivalités avec le voisin allemand. Michal Schneeberger revenait quelques jours avant ces célébrations sur la tumultueuse histoire de cette gare et sur sa grande valeur symbolique.
Nous célébrons le 20e anniversaire de la réouverture du chemin de fer historique qui, comme je l'ai déjà dit, a joué un rôle essentiel pour toute notre région et dans la collaboration entre les Tchèques et les Bavarois. Il y a 20 ans, ce train fut rouvert car il avait été bien évidemment fermé du temps du rideau de fer. Il y avait de surcroît un mur séparant la partie tchèque de la partie allemande. D'une certaine façon, cette gare fut un symbole de la partition de l'Europe, tel que le fut également le mur de Berlin. C'était notre symbole de cette division dans la région de Šumava.
Ce samedi a ainsi été l'occasion pour les touristes de revivre une partie de l'histoire des chemins de fer en embarquant à bord d'un train à vapeur datant du début du XXe siècle. Aussi, des concerts ont mis à l'honneur les traditions tchèques et bavaroises. Ces célébrations, qui se poursuivront toute l'année, ont ainsi permis de rappeler que la richesse de la région tient avant tout à sa position de carrefour entre les deux peuples et les deux cultures.
C'était Faits et événements en République tchèque. Comme chaque lundi, place maintenant à la rubrique sportive, une rubrique dans laquelle il sera question de basket féminin. En pleine préparation en vue du championnat d'Europe, la République tchèque et la France sont affrontées à deux reprises la semaine dernière à Prague. Deux matchs entre deux des meilleures équipes européennes actuelles auxquelles a assisté Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque.
Deux matchs entre une équipe vice-championne du monde en titre, la République tchèque, et une autre championne d'Europe en titre, la France. C'est le programme de gala qui était proposé aux amateurs de basket féminin jeudi et vendredi dernier à Prague. Ces deux matchs s'inscrivaient dans le cadre de la préparation au championnat d'Europe féminin qui se tiendra en Pologne du 18 juin au 3 juillet prochain. Et comme souvent ces dernières années, la République tchèque et la France feront partie des favorites de cet Eurobasket qui, au-delà de la compétition pour l'obtention du titre continental, aura la particularité de qualifier les 5 premières équipes du tournoi pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Ces deux matchs se sont soldés par deux victoires de la France face à une équipe tchèque privée de sa meneuse de jeu, Hana Horáková, élue meilleure joueuse européenne en 2010 et dont l'entraîneur avait décidé de procéder à une large revue d'effectifs. Les Bleus se sont d'abord imposés de 14 points jeudi, 74 à 60, puis de 11 points vendredi, 63 à 52. Deux victoires dont a toutefois relativisé la valeur l'entraîneur français Pierre Vincent, comme il l'a confié au micro de Radio Prague à l'issue du second match.
Ouais, c'est pas l'équipe qui est vice-championne du monde, c'est l'équipe tchèque de l'année dernière qui est vice-championne du monde. Nous, outre ça, ce qui nous a intéressé, c'est la façon dont on a pu aujourd'hui développer notre jeu défensif. Hier, on a commis beaucoup d'erreurs défensives sur les pick and roll et sur le jeu posté. Et moi, ce que j'ai apprécié aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas commis d'erreurs. Voilà, on a été malmené parce qu'on a raté des choses faciles en première mi-temps. Elles sont passées en zone, on a eu du mal à digérer la zone en première mi-temps. Et en seconde mi-temps, on s'y est bien adapté. Donc tout ça, c'est des signes qui sont encourageants parce que, bon, on peut être en difficulté comme on l'a été ce soir et ne pas mettre les tirs. Il faut quand même gagner, trouver des ressources et mentales et tactiques pour aller gagner. Et ça, c'est le gros point positif de ces deux matchs.
Qu'est-ce que ces deux matchs vous ont appris sur ce qui reste encore à faire, les points qui restent à travailler avant le début du championnat d'Europe ?
Mais on ne peut pas être trop ambitieux parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le championnat d'Europe. Donc on va essayer de régénérer, de tirer beaucoup. Sur la qualité du jeu qu'on a produite, on ne va pas changer grand-chose. Ce qu'il faut, c'est peut-être l'esprit du jeu. C'est-à-dire que sur fille à fille, on a tendance à jouer les formes courtes, à aller chercher des transitions un peu vite. Quand on ne score pas, on n'est pas assez patient. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle il faut qu'on soit vigilant. Et puis sur zone, quand on ne score pas, on manque d'agressivité. Donc c'est les grandes, peut-être les grandes, grandes lignes sur lesquelles il va falloir qu'on progresse.
Un mot sur cette équipe tchèque qui a également beaucoup fait tourner son effectif.
Bah, l'équipe tchèque, c'est une grande équipe. Bon, évidemment, le fait que Machova ne joue pas, ça change un peu leur effectif. Bon, ce soir, Yana Vesela ne jouait pas non plus. Ilona Burova, mais leurs petites nous ont posé à la limite plus de problèmes que leurs grandes. Voilà, elles ont un réservoir assez important. Il faut que les jeunes joueuses prennent leur place, c'est tout. Donc, nous, on est contents d'avoir gagné, mais bon, l'équipe vice-champion du monde, c'était celle de l'année dernière.
Vous êtes champion d'Europe en titre. Vous allez là-bas, au championnat d'Europe, avec l'objectif de défendre votre titre ou la priorité sera la qualification pour les Jeux Olympiques ?
Non, on ne défend rien. On va pour conquérir une place pour les JO. Donc, c'est être dans les 5 premiers. Ça, c'est l'objectif plancher. Et puis, on ira le plus haut possible si on en a l'énergie, la chance et le courage.
Pour le deuxième match, vendredi, l'entraîneur tchèque, Lubor Blažek, avait lui choisi de se priver de certaines de ses joueuses cadres, comme l'ailière Yana Vesela ou la pivote Ilona Burgrova, qui portait le maillot de Bourges dans le championnat de France ces deux dernières années, et ce, afin de donner leur chance aux plus jeunes du groupe. À la sortie du parquet, Lubor Blažek a fait un gros effort pour analyser en français, s'il vous plaît, le contenu de cette double confrontation tchéco-française et les perspectives et les objectifs de son équipe avant le début du championnat d'Europe. On écoute donc l'entraîneur tchèque Lubor Blažek.
Nous avons perdu des fois, une fois avec 15, deuxième fois avec 11 points. Je pense que vous avez bien joué en défense, en attaque. Votre pivot sont par excellence, ici c'est notre problème. Et je pense que vous êtes nouvelle championne d'Europe.
Qu'est-ce que ces deux matchs vous ont appris sur votre équipe ? À chaque fois, vous avez perdu le score dans les deuxièmes mi-temps. Que vous a-t-il manqué et quels sont les points sur lesquels vous devez travailler d'ici le début du championnat d'Europe ?
Oui, je pense que nous avons changé 5 joueuses. Et c'est beaucoup pour, non seulement pour nous, pour la France, pour la Russie. C'est vraiment beaucoup. Et nous changeons l'équipe. Et nous avons gagné avec la Russie. C'est un bon résultat, mais avant nous avons encore beaucoup de travail en attaque parce que votre défense a été très bonne, très dure et c'était le plus grand problème.
Alors, on sait que ce sont toujours des matchs de préparation, le résultat n'est pas le plus important. Malgré tout, le fait de perdre deux fois contre la France, qui fait partie de nouveau des favorites avec vous pour le titre ou pour les médailles au championnat d'Europe, est-ce que c'est quand même inquiétant ? Est-ce que c'est jamais très bon pour le moral ? Même si ce sont des matchs de préparation, on n'aime pas perdre.
C'est vrai, mais je pense que demain, je désire dire 12 joueuses pour le championnat d'Europe. C'est pourquoi j'ai changé beaucoup et c'est pourquoi le résultat a été en deuxième position.
Oui.
Nous avons perdu avec 11 points, mais je pense que pour nous c'est un bon résultat parce que nous avons joué avec 12 joueuses, avec les jeunes joueuses. Et normalement, avec la France, nous ne pouvons pas jouer avec toute l'équipe. Contre la France, nous pouvons jouer avec 7, avec 8 joueurs, et puis nous avons une bonne chance de bien jouer.
On sait que Anna Horakova va vous manquer. Elle a été élue meilleure joueuse européenne l'année dernière, en 2010. Comment comptez-vous compenser son absence ? Comment l'équipe va-t-elle évoluer ? L'équipe va-t-elle jouer différemment pour compenser cette absence ?
Et c'est le problème. Horakova, c'est super playmaker. Sans Horakova, nous avons une bonne cohésion en attaque et je pense qu'elle a été très bonne pour motivation d'équipe, mais elle n'est pas ici, elle est malade, elle est fatiguée, elle ne peut pas jouer. Je dois dire, nous avons une nouvelle équipe et avec la nouvelle équipe, nous travaillons.
Juste dernière question, avec cette nouvelle équipe, quels seront les objectifs au championnat d'Europe ?
Je vois les Jeux Olympiques et c'est pourquoi nous désirons être première ou cinquième, c'est joli.
Pas de médaille ?
Oui, je suis content avec quatrième place, avec cinquième place.
Uh-huh. Surprenant.
Mais c'est dire parce que vous pouvez voir les autres équipes, la Russie, Pologne, France, la Russie, Grèce. Je vois huit équipes pour...
Pour les premières places.
Non, pour les premières places.
Pour la qualification.
Pour les premières cinq positions.
Pour la qualification olympique.
Oui.
Et en cas de qualification, les Tchèques participeraient à Londres à leurs deuxièmes Jeux Olympiques consécutifs, après Pékin en 2008, où elles s'étaient classées septième. Quant au championnat d'Europe, si les Françaises sont donc les tenantes du titre, les Tchèques, elles, attendent une médaille depuis 2005, année historique marquée par la conquête de leur seule et unique médaille d'or jusqu'à présent.
Merci à Guillaume Narguet pour cette rubrique sportive. Le programme de Radio Prague en langue française se termine. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinkova. Merci de votre attention.